Nous allons maintenant
ouvrir la parole de Dieu à l'épître de Paul aux Romains. Romains, chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Nous avons eu cet après-midi, avec des amis qui sont venus nous visiter, comme toujours heureux d'avoir des visites, surtout ici à Perguillot, pendant le temps de notre retraite, des amis avec qui on peut s'entretenir de la parole de Dieu, des voies du salut. Et nous disions que pour être sauvé, bien sûr, il faut passer par l'expérience de la conversion. Mais ensuite, dans le cours de ce que nous appelons notre pèlerinage, la vie chrétienne, eh bien, il y a une loi. Dieu ne peut intervenir et ne peut assurer notre salut que selon sa volonté, bien sûr, mais sa volonté qui se trouve formulée dans de véritables lois. Dieu, dans toute sa création, a établi des lois qui sont immuables. Et nous en avons une ici. Elle est exprimée dans notre épître, comme nous l'avons lu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous ne pourrez pas être sauvés. Mais si par l'esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà, chers amis, ce qu'on pourrait facilement et en vérité appeler la loi de Dieu concernant l'accès au salut, à la vie éternelle. Si vous vivez selon la chair, nous comprenons ce que cela veut dire, si vous vivez conduit, dirigé par les aspirations, les pensées qui montent de la chair, eh bien vous mourrez, il ne peut pas en être autrement. Et cela n'est pas dit à des inconvertis, mais à des chrétiens, toutes les épîtres sont adressés à des chrétiens, et particulièrement ici, ce langage est adressé à une église dont la foi est renommée dans le monde entier. C'est le début de l'épître qui nous l'apprend. La foi est renommée dans le monde entier. Eh bien, là, le Saint-Esprit, par Paul, dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ». C'est une loi de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et voilà Comment ?
Il faut que nous envisagions notre vie chrétienne. N'allons pas chercher de grandes complications, mais envisageons-la sous cet angle-là. Pensons que cette loi de Dieu doit être connue et qu'il faut qu'elle joue dans le bon sens pour nous. Pour être fils de Dieu, et ici l'expression est celle qui est utilisée pour le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il soit lui le fils unique de Dieu, mais il est appelé le fils de Dieu. Et ici, ceux qui par lui connaîtront la félicité éternelle sont d'ores et déjà, s'ils sont en chemin, en route, conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut donc être conduit par l'Esprit de Dieu. Et être conduit par l'Esprit, ou être fils de Dieu, ce sont là deux énonciations qui correspondent à une seule et même réalité. Quelqu'un est-il conduit par l'Esprit de Dieu? Est-il maintenant conduit par l'Esprit de Dieu? Sa vie est-elle vraiment l'expression des sollicitations de l'Esprit de Dieu, des directions que l'Esprit de Dieu lui donne? Celui-là est un fils de Dieu maintenant. Celui-là ou celle-là. Ce sont là deux énoncés qui se rapportent à une seule et même réalité. Être conduit par l'Esprit ou dire « Je suis fils de Dieu », c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a correspondance de ces deux énoncés. Ils désignent une seule et même réalité. Et comment peut-on être conduit par l'Esprit? Ah, là est la question. Une question qui doit nous préoccuper au premier chef dans nos prières. Seigneur, est-ce que vraiment, en me voyant, en me sondant, tu peux m'assurer que je suis conduit par l'Esprit? Le Seigneur peut-être nous dira non, tu ne l'es pas. Tu es encore beaucoup trop tenu par la chair. Trop assujetti à la chair. Tu écoutes trop souvent en toi les montées de cette chair, ses exigences. Tu cèdes à de telles exigences. Tu n'es pas pleinement conduit par l'Esprit. Tu voudrais, tu cherches de temps à autre. Il semble que tu cèdes à l'Esprit, mais tu n'es pas suffisamment conduit par l'Esprit. Tu n'es pas totalement conduit. Alors, chers amis, si le Seigneur nous tient ce langage, pouvons courber la tête et dire « Seigneur, pourtant, tu ne me rejettes pas ?» Le Seigneur dira « Non, je ne te rejette pas. Mais je désire que maintenant, tu appliques véritablement toute ta foi, toute cette puissance que tu peux découvrir dans ta foi, à être conduit par l'Esprit. » Alors, il faudra que tu sois affranchi de la domination de la chair. Il faudra que tu sois vraiment libéré, libre à l'égard de ton cœur naturel. Ton cœur naturel. Ah, il engendre, lui, des pensées, des aspirations, des désirs. Les désirs de la chair qui sont contraires, toujours contraires à ceux de l'esprit. Il faut savoir que si nous sommes affranchis de la domination de la chair, nous ne pourrons plus lui céder, nous ne pourrons plus céder à la chair, et nous resterons, par conséquent, libres à l'égard de tout ce qui pourrait nous souiller, libres à l'égard des souillures venues par la chair. Et ici, le texte que nous avons lu nous dit que il convient, il importe de faire mourir les actions du corps. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, pas par vous-même, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Faire mourir les actions du corps par l'esprit, c'est ce que Jésus lui-même a traduit en d'autres termes, lorsqu'il a dit, par exemple, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, alors n'hésite pas, arrache cet œil. Et si ton bras est pour toi une occasion de chute, eh bien, il vaut mieux entrer manchot dans la vie que de rester avec ses deux bras et d'aller dans la géhenne. Alors il faut couper ce bras, couper cette main, couper ce bras, l'amputer. » Bien entendu, c'était là un langage figuré, mais c'est un langage net. Si en nous quelque chose nous fait constamment tomber dans le péché, ou nous ramène constamment à l'assujettissement au désir de la chair, alors ce quelque chose, il faut véritablement le supprimer, radicalement. Ah, il faut venir devant le Seigneur, il y a là une opération à faire par l'esprit, opération spirituelle, opération qui intéresse notre cœur. Il y a là quelque chose à faire d'urgence. Lorsque le chirurgien pratique une opération, c'est qu'il y a, il y avait nécessité d'intervenir d'urgence. Eh bien, il en est ainsi, nous dit le Seigneur, faire mourir les actions du corps, et cela par l'esprit. Le Saint-Esprit, lui seul, est capable de soumettre la chair, si par la foi, et voilà l'œuvre de notre foi, si par la foi, nous le laissons maître de nous-mêmes, maître de notre cœur. Laissez l'Esprit de Dieu maître de nous-mêmes, de notre cœur. La soumission de la chair étant chose obtenue, la mort des actions du corps ayant elle-même été réalisée, alors il nous sera possible de suivre positivement l'Esprit de Dieu en ses directions. L'Esprit de Dieu nous dirigera. Il ne manquera pas de nous diriger. Et c'est alors que la vie véritable qui nous a été communiquée par le Seigneur Jésus, par l'Esprit, la vie véritable sera elle-même heureuse, elle fera naître en nous ce bonheur intérieur et qui lui est lié, qui est caractéristique de cette vie, et nous aurons ce qui est appelé la vie abondante. Et c'est alors dans cette vie abondante que la filialité, c'est pourquoi il y a ici l'expression « fils de Dieu », la filialité avec Dieu se manifestera. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, parce que ceux-là sont placés véritablement par l'Esprit de Dieu dans la filialité de Dieu. Ils sont dans la filialité. Être conduit par l'Esprit, c'est alors pouvoir s'approcher de Dieu sans qu'une atteinte soit porté à la sainteté et à la justice de Dieu. Un pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu, mais un pécheur qui se soumet à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, celui-là peut s'approcher de Dieu. Nous sommes invités à nous approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu dans l'état de péché. Il faut absolument que, par l'esprit, nous faisions mourir les actions du corps, tout ce que le corps exige, tout ce que la chair exige et qui ne peut plus lui être concédé. Eh bien, nous pourrions nous demander si cela est véritablement à notre portée, si nous le pouvons aisément, facilement. Est-ce que c'est là quelque chose qui ne puisse être demandé qu'à une élite de chrétiens? Non pas, mes amis. C'est à tous que cela est demandé. Et tous, nous le pouvons. Un Fils unique, Dieu lui-même, a revêtu notre humanité pour la sanctifier dans la mort même. Un simple homme n'aurait jamais pu racheter ses frères, mais lui était venu de Dieu, envoyé par Dieu. Il pouvait dire, vous, mes disciples, ou vous, mes contemporains, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il était venu d'en haut, sorti du Père, et il a pris notre humanité, une humanité semblable à la nôtre, pour opérer, accomplir l'œuvre de la rédemption, et c'est ainsi qu'il a pu racheter les hommes devenus ses frères. Et la parole nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Au verset 15, ou au verset 16 plutôt, nous avons lu, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est une chose qui doit nous attirer cela. Nous devons désirer cela. Avoir une attestation intérieure, venant de Dieu, venant de l'Esprit de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, mais quantité, peut-être d'anxiété, de problèmes, tombe, s'écarte. Hein. Si l'Esprit de Dieu me dit, dites à mon esprit, et il va le dire avec force, il va le dire pour y introduire dans mon esprit une certitude. Ton Dieu dit que tu es enfant de Dieu. Oh, quelle merveille! Merveille! Chers amis, nous devons soupirer après une telle attestation, un tel témoignage intérieur, un témoignage de filialité. Dieu nous disant, tu es mon fils, tu es mon fils. Oui, il y a celui que j'appelle mon fils unique. Lui, il est fils par origine. Mais toi, tu es quand même mon fils, par lui, fils d'adoption. Par adoption, toi. Lui, c'est par origine. Ah, c'est son origine, c'est sa nature d'être fils. Il est sorti du Père. Mais toi, tu es fils aussi, comme lui, fils d'adoption, par adoption. Alors, la filialité, mes amis, est grande. Je dirais que elle devient égale à la filialité de Jésus. Différence est en fait, et je viens de la faire, n'est-ce pas? Bien sûr, l'origine de la filialité n'est pas la même, mais la filialité elle-même est comparable. Je dirais qu'elle est semblable, elle est aussi radicale, elle est radicale, chers amis, être fils de Dieu. Le prophète l'avait déjà annoncé, « Je ferai d'eux des fils et des filles. Mes amis, est-ce que nous avons pesé ces choses, ces réalités? Ne sont-elles pas devenues, dans notre langage évangélique, n'ont-elles pas peut-être, hélas, été couvertes par une sorte de banalisation? Ne sont-elles pas devenues banales, trop banales, devant notre cœur? Ont-elles perdu de leur magnifique et glorieuse réalité? Ah, chers amis, je voudrais que vous retrouviez cette réalité d'une filialité avec Dieu, une filialité à l'égal de la filialité de Jésus. D'ailleurs, c'est dit ici, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, pas pour une part minime, co-héritiers au même titre que Christ, mes amis, mais c'est quelque chose de fantastique. Si nous consultons le texte original, nous verrons que le mot qui est ici signifie héritier à part entière, héritier au même titre que Jésus-Christ. Si la filialité est la même, son origine n'est pas la même, mais la filialité est une réalité pour nous, devient une réalité qui est à l'égal de la réalité de la filialité de Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut surtout pas minimiser la révélation que les Écritures nous donnent, bien entendu, de la volonté de Dieu, mais il faut recevoir cette révélation dans toute sa splendeur. Elle est pour nous émerveillement des fils et des filles de Dieu. Maintenant, si nous sommes conduits par l'Esprit, si nous laissons l'Esprit inspirer nos pensées, faire germer en nos cœurs, en ce cœur régénéré, des pensées de bien, des pensées qui répondent et qui vont au-devant de la volonté de Dieu, et que nous suivions par la force de l'Esprit et par la foi que nous appliquerons aussi à notre marche, eh bien, nous parviendrons à réaliser véritablement ce que le Seigneur attend de nous, et nous serons devant lui comme des fils. L'esprit de servitude, la peur de l'esclave, ne doit plus régner. L'esprit d'adoption dont parle ici notre texte, l'esprit d'adoption, c'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ nous unissant au Père. L'esprit de Christ est un avec l'esprit du Père. Il n'y a qu'un seul esprit de Dieu. Mais si nous disons l'esprit de Christ, c'est parce que nous y sommes autorisés par l'Écriture. Mais l'esprit de Christ, c'est essentiellement l'esprit de Dieu s'affairant dans la rédemption, dans le rachat des hommes à sauver. Eh bien, l'esprit de Christ est un avec le Père, et il est répandu sur les rachetés de Christ. Et étant répandu sur eux, cet esprit les met avec Dieu dans le même rapport, que Christ avec son Père. Vous avez bien compris. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit de Dieu dans l'œuvre d'adoption. Et alors cet esprit nous met dans une relation avec Dieu, une relation qui est la même que la relation de Christ avec son Père, Christ, lui qui est sorti du Père, lui qui est fils, je l'ai dit, selon son origine. Nous, nous sommes fils d'adoption, et nous entrons dans une relation de même ordre, de même puissance, de même valeur que la relation de Jésus avec son Père. Avons-nous raison de dire ces choses ? Chers amis, lisez bien le chapitre 17 de Jean, la prière sacerdotale. Qu'ils soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Ah, moi en eux, toi, Père, en moi, et qu'ils soient un. Jésus a fait cette prière pour exprimer la grande volonté du Père, et je viens de vous la dire, c'est que les rachetés entrent dans une relation avec Dieu de même ordre que la relation de Jésus-Christ avec son Père. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la filialité d'adoption, en ce qui nous concerne, est de même ordre, de même nature, de même valeur que la filialité de Christ vis-à-vis de son Père. Ah, chers amis, mais savez-vous que, bien sûr, les conséquences d'une telle réalité iront loin, et l'Écriture nous montre qu'elles iront loin, car nous sommes appelés à porter l'image du Seigneur en toute notre personne. Après résurrection, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Après résurrection, alors, nous aurons revêtu le domicile céleste, nous aurons revêtu le corps nouveau, le corps spirituel, le corps céleste, nous aurons revêtu ce corps, et à ce moment-là, esprit, âme et corps, nous serons dans une totale, parfaite ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ descendra après les noces de l'agneau, pour l'événement extraordinaire de la parousie, du retour en gloire, alors tous ces anges, les anges de sa puissance seront là, mais aussi une cohorte extraordinaire de tous ces saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont composé l'épouse, qui sont devenus l'épouse. Ils descendront avec Christ, et Christ sera admiré en sa seule personne, non pas. Il sera admiré dans les personnes de tous ces rachetés, de tous ces saints. Christ sera admiré. On pourra l'admirer dans une foule. Il sera admiré par tous les éléments de cette foule innombrable qui descendra des cieux. Chers amis, vous savez, les desseins de Dieu sont immenses, ils sont grands. Et nous avons besoin d'en peser l'immensité, la grandeur. Ils sont bien sûr à la mesure de Dieu. Alors, nous avons besoin de cela. Notre foi, qui souvent est vacillante, manque de nerfs, manque de continuité. Alors, il arrive que notre foi rapetisse les desseins de Dieu, comme lorsqu'on se sert d'une longue vue dans le mauvais sens, les choses sont rapetissées. Et c'est souvent ce que fait notre foi, ou ce que fait peut-être, notre pensée, les pensées de notre cœur, qui n'est pas pas suffisamment nourri des saintes paroles de Dieu, n'est pas suffisamment nourri par la méditation, par la prière, car la prière aussi est une nourriture, par les œuvres, car les œuvres aussi sont une nourriture, alors il arrive que nous rapetissions les desseins de Dieu, nous les ramenons à une échelle qui n'est pas très éloignée de la nôtre, de l'échelle des objets que nous pouvons saisir humainement. Alors que l'Écriture nous découvre les desseins de Dieu dans une immensité, et je viens de vous le montrer, une filialité. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous entrez dans une filialité qui est à l'égal de la filialité de Jésus vis-à-vis du Père. Qu'il soit un, qu'il soit un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un, dans la même relation. C'est écrit, c'est de Jésus qui l'a dit, la filialité devient la même, bien que n'ayant pas la même origine, bien sûr. Cependant, Dieu va jusque-là. Il ne veut pas qu'entre son fils unique, celui qui est le bien-aimé de toujours, celui qui, sur qui s'est porté l'amour, éternellement l'amour de Dieu, du Père, eh bien, il veut que les rachetés, ceux que, dont il a lui-même ordonné, décidé le salut, que ceux-là deviennent ses fils au même titre que son fils unique. Mes amis, avez-vous réfléchi à ces choses? Avez-vous pesé cela? Un esprit d'adoption, c'est-à-dire un esprit qui nous amène vraiment à cette égalité dans la filialité avec Dieu, cette égalité avec notre Maître, le Seigneur Jésus. En définitive, nous pouvons dire qu'il y a évidence surnaturelle que Dieu habite dans le cœur de celui qu'il nomme son enfant. Nous sommes enfants de Dieu. Celui qui est ainsi appelé, nous le sommes. Et par la foi, mes amis, nous devons recevoir cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Jean, dans sa première épître, dit « Nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes vraiment. » D'ailleurs, il faut partir de cette assurance-là. Notre vie chrétienne ne peut avoir sa véritable expression, son entière expression, que si nous partons de cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. Mais, chers amis, il faut qu'ensuite nous nous manifestions comme des enfants de Dieu, et pour cela que nous appliquions notre foi, notre amour, à être conduits par l'Esprit. Et étant conduits par l'Esprit, alors en retour, la filialité se présente. Nous sommes vraiment fils de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit « Tu es maintenant dans la filialité avec ton Dieu ». Dans cette même filialité qui est celle de ton Maître, de ton Seigneur, de ton Sauveur, qui lui est Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu, lui est Dieu, et pourtant, il t'introduit dans une filialité qui est à l'égal de la sienne. Mes amis, ça c'est la vérité. C'est la vérité, la grande vérité de Dieu. Dieu ne veut pas nous amener à un étage inférieur, mais au même étage que son fils Jésus. Et vous savez que tous les élus de Dieu sont appelés à régner avec lui. Et même le Seigneur Jésus nous a dit que celui qui serait vainqueur, ceux qui seraient vainqueurs, parce que ils se seront laissés conduire par l'Esprit et ils auront eu cette assurance en eux qu'ils sont agréables à Dieu et qu'ils sont fils de l'Esprit. Alors, ceux-là, les vainqueurs, ils s'assieront sur mon trône, comme moi je me suis assis sur le trône de Dieu. N'est-ce pas écrit cela? Celui qui vaincra, il s'assiera sur mon trône. Le Seigneur dira, voici mon trône,
assieds-toi là. Comme David a pu dire à son fils Salomon, mais qui devenait roi à sa place, assieds-toi sur mon trône. Comme moi, je me suis assis sur le trône de mon père. Prends possession de ce règne qui m'appartient, que je tiens de mon père, mais qui m'appartient, et prends possession, toi aussi, de ce règne, car tu vas paître les nations avec moi, par la verge de fer. Vous savez que cette responsabilité est immense, très grande, ce n'est pas le moment d'en parler, mais je l'évoque seulement. S'asseoir sur le trône du Seigneur Jésus-Christ. Et comme lui-même s'est assis sur le trône de son Père, la filialité, Dieu nous donne tout. Il ne nous donne pas quelque chose de moindre, quelque chose d'inférieur. Il nous donne à égalité de ce qui est parfait, de ce qui est total, de ce qui est merveilleux. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la parole, car en lui habite corporellement toute la plénitude de lui. Vous avez tout pleinement en lui. Mes amis, la filialité avec Dieu. Oh, comme nous voudrions. Nous voudrions maintenant, en raison surtout de cette pensée qui est là, dans notre cœur et qui s'affirme de jour en jour, que le temps est proche, que le retour de notre Maître ne saurait tarder maintenant, attendu l'accumulation des signes qui le montrent. Alors nous voudrions que, en partant de cette retraite, vous ayez dans votre cœur cette assurance obtenue de l'Esprit de Dieu que vous êtes fils de Dieu. Et rappelez-vous ceci, que vous êtes entré dans la filialité, il n'y en a pas plusieurs. On ne peut pas être fils de Dieu de plusieurs manières, on l'est ou on ne l'est pas. Que vous êtes entré dans cette filialité avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu le Père. Mes amis, oh, surtout, je vous en supplie, ne restons pas à vivre un christianisme amoindri, un christianisme enlisé dans les habitudes et le formalisme. Le formalisme peut très bien s'installer dans notre cœur même. Mais vivons, mes amis, les réalités qui nous sont révélées. Vivons ces réalités-là, fils de Dieu. Ne voulez-vous pas être fils de Dieu, entrer dans la filialité, être co-héritier, héritier de Dieu comme Christ le Fils l'est, hériter avec lui, au même titre, avec la même part, le même héritage. Ah, chers amis, c'est quelque chose d'immense, et cela est vrai. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Merci Seigneur de nous les avoir données. Nous prions le Seigneur.